Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal de 7 heures, Mel Emmanuel.
Premier point de l'actualité de ce lundi 20 novembre, bonjour à tous. Transcender les divergences et œuvrer au rayonnement de la région du Bekaï, telle est l'invitation formulée par le chef de canton de Béoumi aux élus et cadres de la région. Au Mali, la nouvelle de la prise de Kidal par l'armée malienne a rencontré un accueil populaire. Moussa Mara, ancien premier ministre malien, revient sur les raisons de cet accueil dans ce journal. Puis nous laisserons la place à Francis Cassi pour le parcours des titres de la presse ivoirienne aujourd'hui. Enfin, le président de Civis Côte d'Ivoire, Dr Christophe Kwame, est l'invité de la rédaction. Avec lui sera abordée la question de la déclaration de patrimoine dans l'administration publique. Nous démarrons ce journal dans la région du Bekaï. La deuxième session du Conseil régional tenue le vendredi 10 novembre a été un prétexte pour le chef de canton de Béoumi, Nanan Agoyao Barthélémy, d'appeler les cadres et élus de la région à transcender leurs divergences et à travailler ensemble pour le rayonnement du Bekaï. Plus de détails avec Joseph Assalé, notre correspondant sur place.
Le développement de la région de Bekaï ne doit pas se réaliser de manière éparse. Bien au contraire, il doit se faire dans la cohésion et la collaboration, à l'effet de fédérer toutes les énergies et les intelligences pour l'épanouissement des populations. C'est le cri de cœur lancé par le chef de canton de Béoumi à l'occasion de la deuxième session du Conseil régional de Bekaï. Écoutons Nana Agoyao Barthélémy dans des propos bien imagés.
Tu as des idées, j'ai les miennes. Mais ces deux idées peuvent aboutir à la même chose. C'est comme une équipe nationale. Il y a le gardien, il y a les défenseurs, les hommes du milieu et l'attaque qui marque. C'est quand il y a une collaboration franche entre les actions, entre chaque joueur, que l'équipe gagne. Toi seul, attaquant, il faut quelqu'un pour te donner pour aller marquer. Quand la base circule, quand il y a la cohésion, l'équipe gagne. Mais si chacun veut faire un jeu individuel, vous ne pouvez pas gagner. Vous allez perdre. En résumé, qu'est-ce qu'on cherche? L'unité, la paix, la cohésion. La cohésion, elle existait depuis longtemps, depuis nos ancêtres. On doit donc renforcer, renflouer même cette cohésion-là. Ça doit être plus dense.
Vice-président du PDCI, par ailleurs conseiller régional, maître blessé Jean Chrysostome, rassure.
Mais il faut que les gens retiennent qu'au-delà de ce que la politique nous oppose, là, nous nous connaissons tous et nous sommes des amis et des frères. Il y a toujours un lieu de compromis entre nous. Et ce compromis, ça existe.
Il ajoute pour dire que le développement n'a pas de couleur politique, donc tous sont concernés par les investissements. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Fonction publique ivoirienne, les personnels enseignants de hors de leur ministère d'origine pourraient être reclassés dans les échelles de traitement à égalité de grade et échelon avec les autres fonctionnaires de leur nouveau ministère. Ceci en application du décret de 1976. Zadi Nyanya, président de la plateforme des organisations professionnelles du secteur public, qui trouve la décision fondée, plaide tout de même pour sa suspension ou, à tout le moins, sa modulation.
Je voudrais d'abord rappeler que cette mesure-là est simplement l'application d'un décret pris en 1976. Ce décret-là a institué pour les enseignants des échelles particulières qui permettaient aux enseignants d'être ce qu'on a appelé décrochés de la grille générale. Mais dans ce décret, l'article 3 précise que cette spécificité qui est faite aux enseignants appartient uniquement à ceux qui restent dans le ministère de l'Éducation et de la Formation. En 2006, 2007, 2008, lors des négociations pour l'institution d'un profil de carrière pour les enseignants, cet article a été rappelé pour dire aux enseignants qu'en mettant en place un profil de carrière incitatif pour eux, l'objectif c'était de les amener à rester dans le système éducatif et non d'en sortir. Entre-temps, des ministères sont devenus des ministères à prime et ont donc attiré vers eux de nombreux enseignants et aujourd'hui nous sommes à plus de 11 000 enseignants concernés. Le gouvernement, à la fin de l'année dernière, a décidé de mettre en œuvre l'article 3 en donnant 3 mois aux enseignants concernés. Ma réaction en tant que syndicaliste, c'est que dans un premier temps, c'est un décret et l'État peut décider d'appliquer un décret, quel que soit le temps mis. La seule chose, c'est qu'il s'agit du monde enseignant. Et demander à des gens qui ont quitté le secteur depuis des lustres, qui ont perdu la main, la pédagogie, l'andragogie, de revenir dans le milieu enseignant, je ne sais pas quel objectif on vise. Est-ce un problème financier ou un problème pédagogique? La deuxième chose, ça pose un problème social. Donc, il faut les laisser là où ils sont et fermer la porte à ceux qui veulent y aller maintenant. Nous sommes donc dans un plaidoyer pour demander au gouvernement de sursoir ou à tout le moins de moduler.
À l'instant, le président de la plateforme des organisations professionnelles du secteur public, Zadi Nyanya, joint par Junior Cardin. Lors de sa 11e session ordinaire de l'année 2023, le Conseil de l'Autorité nationale de la presse, ANP, a décidé de la suspension de deux quotidiens ivoiriens, La Voix originale et Le Quotidien d'Abidjan, respectivement pour 7 et 3 parutions. César Etou, directeur de publication du quotidien La Voix originale, s'insurge contre cette énième décision de l'ANP à l'endroit du quotidien dont il a la gestion et parle d'un harcèlement. Nous l'écoutons.
L'ANP nous reproche d'avoir publié des articles qui incitent à la haine contre le régime en place et contre la personne du chef de l'État. Vous savez, c'est difficile de comprendre une telle interprétation parce que nous, notre rôle journal, c'est justement de critiquer et d'interpeller le gouvernement en place et le chef de l'État sur tout ce qui ne va pas. Je vous apprends que depuis sa création en septembre 2016, notre journal est constamment harcelé. Je rappelle pour vos auditeurs que par le passé, à force de subir ces sanctions, nous avons fini par porter plainte et nous avons gagné tous nos procès contre l'ANP. Aujourd'hui, nous sommes en train de réunir toutes les preuves pour aller porter plainte devant le tribunal du commerce.
Alors, face à cette suspension, vous décidez donc de porter l'affaire devant la juridiction administrative compétente pour contester ces sanctions.
Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Nous avons déjà une affaire pendante. C'est ça que nous allons activer. Parce qu'il est difficile pour nous d'accepter qu'on nous reproche que notre rôle que nous jouons de contrôle des activités du gouvernement et du chef d'État soit assimilé à de l'incitation à la haine.
César Etou, directeur de publication du quotidien La Voix originale, a été joint au téléphone par Aoussi Pota. Le coût du Hajj 2024 passe de 2 161 000 francs à 3 250 000 francs, y compris les frais annexes. Les pèlerins ivoiriens du candidat au Hajj 2024 sont par conséquent invités à faire un effort pour augmenter leur contribution eu égard à la qualité des prestations qui leur sont fournies par l'État ivoirien durant leur séjour en terre sainte de l'islam. On écoute les précisions du directeur général des cultes de Côte d'Ivoire, Messamba Koné.
Il faut d'abord relever tout de suite que le coût du Hajj l'année passée était de 2 161 000, y compris les frais annexes. Et donc, pour 2024, ça passe effectivement à 3 250 000, y compris aussi les frais annexes. Il était temps du moins qu'on puisse demander aux pèlerins de faire un effort pour augmenter leur contribution. Sinon, lorsque vous faites un constat au niveau de la sous-région, vous prenez le Mali, le Burkina Faso et le Niger, sont des pays actuellement en crise, mais qui ont un taux de participation au niveau du pèlerin qui est plus élevé que la Côte d'Ivoire. Ces pays-là sont autour de 4,5 millions et 3,2 millions. Et ces coûts-là ne prennent pas en compte la restauration et bien d'autres services. Mais en Côte d'Ivoire, quand on payait 2,161 millions, c'est un Hajj VIP qu'on organisait. Parce que la qualité de service que la mission Hajj sert aux pèlerins est sans pareil à tous ces pays que je viens de citer. Et là encore, quand on dit 3 millions 250, c'est vraiment en dessous de bon nombre de pays de la sous-région et avec une qualité de service, de prestation au-dessus de tous ces pays. Voilà, en quelques mots, je vais dire les raisons qui ont motivé la mission Hajj à proposer aux autorités de demander aux pèlerins de faire un effort.
Des propos du directeur général des cultes de Côte d'Ivoire, Messamba Koné, rapporté par Gapienan Ouattara. Hors de nos frontières, l'armée malienne a repris aux groupes armés la ville de Kidal le mardi 14 novembre 2023. Les FAMA ont fait leur entrée triomphale à Kidal, ville du nord du Mali qui, depuis mars 2012, échappait à leur contrôle suite au déclenchement d'une rébellion à dominante Touareg. À Bamako, comme dans toutes les régions du Mali, cette reconquête de Kidal a été accueillie avec joie par les populations, mais célébrée également par presque toute la classe politique du pays. Fondateur et ancien président du parti politique ILMA, ancien premier ministre du Mali, Moussa Mara explique cet accueil populaire et enthousiaste qui a été réservé à la libération de Kidal. Nous l'écoutons.
Il faut savoir que depuis 1963, c'est-à-dire depuis 60 ans, la ville de Kidal, la zone de Kidal a toujours été l'épicentre des rébellions et des tentatives de division de notre pays. Et ça s'est exacerbé en 2011-2012 par le départ de l'armée, des forces de sécurité de Kidal. Donc, Kidal est devenu une sorte de ville entre les mains des groupes rebelles. Et cela a sans doute touché la fierté de nos compatriotes. Donc, voir de nouveau Kidal retourner dans la République avec la présence de l'État, ça suscite un sentiment de fierté légitime chez l'ensemble de nos compatriotes. Nous tous, Maliens, nous devons être conscients que le Mali a d'autres combats à mener que de se faire la guerre entre les Maliens. Le Mali est un pays où les ressources ne sont pas abondantes. Nous devons orienter le peu de ressources dont nous disposons vers la prospérité. Donc, la guerre n'est dans l'avantage de personne. Et c'est ce message que nous lançons tous à nos frères des différents groupes rebelles pour leur dire, revenez toujours aux discussions. Moi, je parle à eux tous. La division de notre pays est hors sujet. Le Mali ne sera jamais divisé. Donc il s'agit pour ceci de s'engager dans une dynamique de discussion.
Vous écoutiez Moussa Mara, ancien Premier ministre malien, joint par Soro Adams. Nous revenons en Côte d'Ivoire dans les studios de Radio de la Paix. C'est lors de la revue des titres de la presse ivoirienne avec Francis Cassi. Bonjour.
Bonjour Mel Emmanuel, bonjour à tous. D'abord, nous tenons à nous excuser parce que notre revue des titres de ce lundi va concerner seulement quelques journaux et cela indépendamment de notre volonté suite à un problème technique. Sur ce, nous démarrons par la présidentielle de 2025 au sujet de laquelle le RHDP affûte déjà ses armes. Nous apprend le patriote titrant, séminaire bilan et perspective. Après 3 jours d'intenses travaux, le RHDP gonflé à bloc. À nous de 2025. Ce sur quoi renchérit à son tour l'avenir avec, fin du séminaire post-électoral du RHDP, l'ordre politique se met en place pour tout rafler en 2025. Mais au PDCI-RDA, la préoccupation du moment est l'élection du 16 décembre prochain à sa présidence qui doit trouver un successeur à feu André Kounambédié. Et toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que le PDCI ne sorte pas divisé de ce rendez-vous électoral. À en croire cette manchette de Le Nouveau Réveil. Après le dépôt des candidatures pour la présidence du parti, le président Kopli Boni a reçu les candidats en concertation hier. En conséquence, consacrant sa une à tous les candidats, le bélier intrépide concernant chacun note. Présidence du PDCI-RDA, Thiam veut impulser une nouvelle dynamique. Koumoué Kofi affiche ses ambitions, Bendjo un engagement en faveur de l'unité, Dikayué une candidature par devoir, Yassé préserver l'héritage des pères fondateurs. Sur le plan international touchant la coopération Côte d'Ivoire-Allemagne, l'avenir et le quotidien Les Soyeux Ivoiriens rapportent encore. Ouattara échange avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Enfin, nous terminons notre revue des titres avec Fraternité Matin. Nous apprenons. Santé, le mot d'ordre de grève suspendu. Merci et bonne lecture de vos journaux.
Merci Francis Cassi. Nous aurons une autre revue des titres avec vous dans l'édition de 8h. Dernier virage de ce journal, l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, il s'agit du président de Civis Côte d'Ivoire, une association d'éducation à la citoyenneté. Pour lui, dans le cadre de la lutte contre la corruption dans l'administration publique, toutes les personnes assujetties à la déclaration de leur patrimoine sont tenues de le faire auprès de la haute autorité pour la bonne gouvernance qui, soutient-il, reste indépendante bien que son président soit nommé par le chef de l'État. Docteur Christophe Kwame répond à cet effet aux questions de Francis Cassi.
Docteur Christophe Kwame, bonjour.
Bonjour.
Il y a un programme appelé programme des personnes assujetties à la déclaration du patrimoine. Qu'est-ce que cela signifie?
En réalité, dans le programme de promotion de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption que le gouvernement ivoirien a lancé depuis 2012, il y a un point précis qui concerne un certain type de fonctionnaires, c'est ceux-là qu'on appelle assujettis, et doivent déclarer leur patrimoine, c'est-à-dire leurs biens. C'est ceux-là qu'on appelle les assujettis à la déclaration de patrimoine.
Alors donc vous dites ce sont des fonctionnaires, donc ça concerne seulement les personnes qui travaillent à la fonction publique?
Non, c'est des fonctionnaires, des personnes nommées par la fonction publique, par le président de la République, par le premier ministre et des personnes élues comme les maires et les agents aux maires, les présidents de région et les vice-présidents, les magistrats, les avocats qui ont un certain nombre de niveaux. Donc dans les assujettis, il y a des personnes nommées et il y a des personnes élues qui sont assujetties à la déclaration de patrimoine en Côte d'Ivoire.
Alors, est-ce que c'est toutes les personnes nommées?
Au niveau de la fonction publique, l'État de Côte d'Ivoire fait le choix d'une liste nominative. Elle est longue, donc on ne va pas la citer. Mais ce n'est pas toutes les personnes nommées. Si vous êtes un cadre nommé et que dans le cadre précis de votre travail, vous n'avez pas de risque de corruption majeur, vous ne serez pas assujetti.
Alors, mais est-ce que ces personnes elles-mêmes savent qu'elles sont assujetties à une déclaration de leur patrimoine?
Oui, parce que depuis 2015, la Haute Autorité a fait une campagne de sensibilisation avec des courriers adressés à tous les ministères de Côte d'Ivoire, avec des courriers adressés à toutes les collectivités territoriales, c'est-à-dire les maires, les régions et à tous les EPN, les établissements publics nationaux, comme par exemple les CHU, dont certaines personnalités sont assujetties. Tous les assujettis ont été approchés par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, pour leur dire « la loi vous assujettit, vous devez déclarer votre patrimoine ». Cela a été fait en 2015 et 2023.
Mais il y aurait 1700 assujettis à la déclaration du patrimoine qui ne l'ont pas encore fait. Pourquoi?
La première raison, vous savez qu'il y a des coutumes, il y a des traditions, comme la tradition à Caen qui interdit qu'un individu fasse savoir ses biens de son vivant. Donc, étant donné que nous étions de la société civile, nous avons travaillé ensemble en collaboration avec la Haute Autorité pour qu'on franchisse le pas culturel. Il y avait la religion pour d'autres qui était un autre frein. Et c'est ces éléments-là que la Haute Autorité a mis dans le même bouquet pour dire il faut que tout le monde comprenne le bien fondé.
C'est quoi on déclare concrètement?
Un individu qui est assujetti à la déclaration de patrimoine doit déclarer les biens immobiliers comme les maisons, les biens roulants comme les voitures et les biens fiduciaires comme le compte en banque. Les titres, si vous êtes actionnaire quelque part, vous devez déclarer. Si vous touchez pour des consultances quelque chose dont vous avez signé un contrat que vous gagnez tous les ans, qui vient gonfler votre patrimoine, vous devez déclarer ces biens-là. Voilà ce qu'on appelle le patrimoine d'un individu selon la loi en Côte d'Ivoire.
Mais cela vise quoi? La personne déclare son patrimoine, ça vise quoi concrètement?
Alors, la loi relative à la déclaration de patrimoine est faite pour contrôler les fonctionnaires, les élus et les personnes nommées qui ne seraient pas dans la mouvance de la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, qui permet de poursuivre les fonctionnaires véreux qui, dès qu'ils sont nommés, utilisent le bien public comme des biens privés. Ils détournent les fonds, ils détournent tout l'argent des projets pour construire les hôpitaux et les écoles. Donc, cette déclaration de patrimoine permet comme point systémique pour lutter contre ces détournements-là.
Donc, dans ce cas, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, les personnalités qui la dirigent, comment elle pourrait être efficace? Par la voie de la nomination ou par quelle voie selon vous?
La Haute Autorité pour la bonne gouvernance est une autorité administrative indépendante. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a été instituée par la loi, par l'ordonnance 2013-661. Et à l'intérieur, vous avez la fonction du président. Et dans cette fonction du président, la loi relative à la déclaration de patrimoine, c'est la Haute Autorité qui doit la gérer avec l'aide des commissaires de justice, avec l'aide du procureur général et avec l'aide des juges du tribunal de première instance. Donc ce n'est pas la Haute Autorité seule en tant qu'administration qui doit le faire.
Alors, par rapport à l'efficacité, vous dites que la Haute Autorité pour la bonne gouvernance est une institution indépendante. Nous ne comprenons pas cela, puisque son président ou son personnel est nommé par le président de la République.
La nomination d'une personnalité à la tête d'une autorité administrative indépendante est la norme. La nomination, c'est un acte unique, mais le choix de la personne, c'est sur la base de conseils et de cooptation. Quand le président de la République nomme le président de la Haute Autorité, le travail de la Haute Autorité reste indépendant. Elle ne présente pas un programme au Conseil des ministres et ne demande pas l'avis du président avant une action. Le président de la République, après la nomination par décret du président de la Haute Autorité, ne regarde plus ce que le président de la Haute Autorité fait. Et la loi lui confère cette indépendance-là.
Docteur Christophe Kouamé, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, monsieur.
Vous écoutiez l'invité de la rédaction, Docteur Christophe Kouamé, président de Civis Côte d'Ivoire, en entretien avec Francis Cassie. Nous arrivons au terme de ce journal, le rappel des titres. Transcender les divergences et œuvrer au rayonnement de la région du Bekaï, telle est l'invitation formulée par le chef de canton de Béoumi aux élus et cadres de la région. Et puis au Mali, la nouvelle de la prise de Kidal par l'armée malienne a rencontré un accueil populaire. Vous avez eu dans ce journal les raisons de cet accueil avec Moussa Mara, ancien Premier ministre malien. Merci de vous informer sur Radio de la Paix. L'info revient à 8h.
Radio de la Paix, l'info juste et sans passion.